rapport avec les ministères que d'aucuns appellent majeurs ou apostoliques, c'est-à-dire les ministères d'apôtres, de pasteurs, docteurs, de prophètes et d'évangélistes. Je rappelle les deux listes que nous avons de ces ministères qu'on peut appeler, si l'on veut, majeurs. Nous avons d'abord 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils ? Nous avons déjà dit que ces interrogations appellent une réponse négative, c'est-à-dire que, en somme, les ministères et les dons qui sont désignés ici sont donnés à certains et distribués comme le Saint-Esprit le veut. Voilà une première liste où nous trouvons en tête les ministères que, je vous dis, certains appellent apostoliques ou majeurs. Et il s'agit donc des apôtres, prophètes, docteurs et docteurs. Cette liste est moins complète que la seconde que nous trouvons dans Éphésiens, chapitre 4 et verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà donc ces ministères. Les appeler principaux, à mon sens, c'est une erreur. Disons qu'ils sont apostoliques, si l'on veut, mais ils semblent se différencier des autres ministères qui apparaissent dans le livre des Actes et dans les Épîtres. Le livre des Actes mentionne une catégorie de serviteurs qui sont nommés anciens et épiscope ou évêque. Nous avons par exemple dans Acte 11, verset 30, ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul, par les anciens. Au chapitre 15 et au verset 4, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Dans le chapitre 15, verset 22, 23, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Et puis dans Acte 20, le fameux discours de Paul à Milet devant les anciens de l'église d'Éphèse, alors là, nous trouvons le terme d'anciens et d'évêques. Au verset 17, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église, et puis au verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Et puis ces désignations d'anciens et d'évêques, nous les retrouvons dans les épîtres aux Philippiens. Nous avons particulièrement les épiscopes, les évêques, dont ce terme, nous l'avons déjà dit, signifiant surveillant, principalement surveillant. Nous les retrouvons dans les épîtres pastorales, l'épître de Jacques et la première épître de Pierre. Alors, la question évidemment se pose de savoir qui sont ces anciens, puisque nous ne les trouvons pas dans les deux listes qui en général nous apparaissent comme principales, 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4, et il est apparu à beaucoup. C'est peut-être l'impression même que l'on a en lisant les Écritures pour la première fois, c'est que ces deux listes de 1 Corinthiens 12 et d'Éphésiens 4 se comprennent des ministères qui se situent au-dessus de ceux des charges d'anciens ou d'évêques nommés par la suite. Alors nous demandons, nous posons cette question, que sont ces anciens? Les termes grecs sont presbyteroi, presbytre et épiscopoi, évêque. Les anciens d'Éphèse, nous le voyons, sont à la fois appelés presbyteroi, presbyteros et épiscopos, dont le sens, je le redis, est surveillant. On admet généralement, je me dispense d'une longue discussion, on admet généralement l'équivalence des termes ancien et épiscope. Et le terme poimène figure également dans les Écritures. Il n'est pas mis en évidence ce terme, sauf en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Et ce terme de poimène, ce terme grec, signifie berger et est traduit par pasteur. Et je vais sans doute vous étonner, il ne se rencontre qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, pour désigner une charge confiée à un homme. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et ça me rappelle ce que racontait il n'y a pas tellement longtemps, quelques mois peut-être, dans une revue, un certain auteur anglais du nom de d'Eliot. Il disait que quand il était sorti de l'école biblique où il avait été formé en vue de l'exercice de la fonction de pasteur, du ministère de pasteur, il avait passé 4 années dans cette école et il était chargé de toutes les connaissances du programme jugé nécessaire pour l'exercice de cette charge de pasteur. Or, voici qu'on lui confie une communauté. Alors, que fait-il? Il se dit, voyons, qu'ai-je à faire? Si je faisais un petit peu le compte de tout ce qui m'échoit maintenant dans cette qualité que l'on me donne, et se voyant un petit peu perplexe, il se dit, bon, ben, je vais prendre le Nouveau Testament, je vais le relire entièrement. Et puis je vais bien découvrir là-dedans tout ce qui concerne le ministère de pasteur d'une église. Arrivé au bout de sa lecture, il était encore beaucoup plus perplexe. Il n'avait pas trouvé cette charge qu'on lui confiait. Il ne l'avait pas découverte. Elle n'y était pas. Le pasteur établi sur une communauté tout seul devant faire face à toutes ces choses, toutes les obligations qui vont manquent pas de l'assaillir, il ne le trouvait pas. Alors, il fut un temps affolé, et alors il reprit, bien sûr, dans le Nouveau Testament, toutes sortes de choses, et notamment ce qui est dit des anciens, de la fonction, et puis il fit la somme de tout cela en se disant, bon, ben, voilà ce que je dois faire ce qui est attribué à divers personnages dans le Nouveau Testament. Ça, c'est un témoignage qui a été donné il n'y a pas bien longtemps.
Je le rapporte peut-être un peu mal, mais il était dans ce sens. Ainsi, le terme de poimène, qui signifie berger et qui est traduit par pasteur, ne se rencontre qu'une seule fois dans le Nouveau Testament pour désigner un ministère humain, et cette occasion, c'est Éphésiens, précisément 4:11, la seconde liste dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais Jésus, lui, est désigné comme le poimène. Il est désigné comme le poimène, le berger, ou le souverain berger, dans Jean 10, c'est lui-même qui s'attribue cette désignation, Jean 10, le bon berger, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, le poimène des brebis. Et puis, au verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Nous retrouvons encore ce terme dans les Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 13 et verset 20, « Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur, le grand poimène des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc voilà encore un passage où le terme est appliqué à Jésus-Christ. Nous avons 1 Pierre 2:25. 1 Pierre 2:25, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le poimène et le gardien de vos âmes. » C'est le Seigneur Jésus. Et puis enfin, 5, dans la même épître, 5 et verset 4, chapitre 5, verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Ainsi donc, le terme de pasteur est attribué au singulier, au Seigneur Jésus, à lui seul, et concernant des hommes, il est au pluriel et il ne figure qu'une fois. Voilà quelque chose quand même qui va ne peut pas manquer de nous orienter dans un certain sens. Et alors, si nous voulons savoir ce que font les anciens, ce dont ils sont chargés, alors nous allons nous adresser aux épîtres pastorales, c'est-à-dire à 1 Timothée 3:2. 1 Timothée 3:2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Nous voyons donc déjà que l'évêque ici va devoir prendre part à l'enseignement et prendre soin de l'Église de Dieu. Alors que l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, nous dit que le Seigneur Jésus prend soin de l'Église. Donc le Seigneur Jésus va prendre soin de l'Église et pour cela se servir de certains auxiliaires qui sont ici désignés comme évêques. Et dans 1 Timothée toujours, chapitre 5 et verset 17, « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » un double honneur. On pense ici qu'il s'agirait peut-être plutôt d'un double honoraire, des honoraires en double, probablement, enfin, peu importe. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Alors, donc, les anciens dirigent, ils dirigent l'Église, mais ils ne sont pas un seul, ils sont au pluriel. Et surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, nous allons trouver dans une Église assez conséquente, assez importante, bien sûr, des anciens, mais tous ne seront pas chargés de la prédication, certains le seront, et dans la prédication interviendra aussi l'enseignement, qui est quelque chose de très délicat dans la prédication, dans le ministère de la parole, quelque chose de bien délicat. Alors, nous voyons que les anciens doivent être propres à l'enseignement et que parmi eux, certains travaillent à la prédication et à l'enseignement. On peut avancer ceci, tous les anciens ne sont pas appelés à la prédication et tous les prédicateurs n'ont pas forcément une responsabilité de conducteur dans la communauté locale. Par exemple, l'exercice de la prophétie, j'aurai l'occasion de dire à un autre moment quelle est la fonction de prophète maintenant, aujourd'hui, l'exercice de la prophétie n'est pas nécessairement lié à une responsabilité d'autorité. Il y a aussi des prédicateurs itinérants. Il y a aussi parmi les prédicateurs des personnes, des hommes qui se déplacent d'une église à l'autre. Si il y a quand même quelque chose, une précaution à prendre ici. En effet, nous aujourd'hui, si nous voulons interroger l'Écriture pour qu'elle nous livre un statut des ministères et des fonctions dans l'Église locale, ce statut comportant des dispositions hiérarchiques, nous serons déçus. L'Écriture ne nous a pas dit, voilà, il faut que l'Église soit exactement structurée comme ceci, comme cela. Et chacun de ceux qui sont désignés va avoir son programme, sa fonction bien définie exactement. Donc, nous n'avons pas cela. Nous n'avons pas d'organigramme. Mais ce que nous trouvons, et nous reconnaissons là, bien sûr, en cela la sagesse de Dieu, nous trouvons dans le Nouveau Testament un modèle dont nous aurons à nous inspirer, ainsi que certains principes qu'il ne faudra pas méconnaître. Un modèle que nous aurons à dont nous aurons à nous inspirer et des principes. Il est certain que les problèmes qui se posent aux églises locales diffèrent pour certaines raisons et qui sont celles du lieu, des raisons qui tiennent au lieu où l'église locale se trouve, à son importance, à son développement. Il est évident qu'une communauté de 20 membres ne posera beaucoup moins de problèmes qu'une communauté de 200, 300 ou 400 membres. Par conséquent, il va falloir se servir du modèle, n'est-ce pas, mais savoir l'adapter à la situation de chaque église. Nous voudrions voir encore, avant d'entrer dans l'examen plus, disons, plus complet de cette question des ministères, des divers ministères et de leur place dans l'Église, des activités qui leur reviennent, nous voudrions lire encore quelques textes. Dans Actes, le livre des Actes, au chapitre 15, nous voyons là une question importante se présenter et qui est examinée par les apôtres, les anciens et l'Église. Donc au chapitre 15 des Actes, nous constatons que les apôtres ne décident pas seuls. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Les apôtres ne sont pas seuls. Dans Actes 20, ce discours de Milet, au verset 17, nous voyons que Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, nous l'avons lu tout à l'heure, et nous pouvons dire que en dehors de l'apôtre Paul, qui d'ailleurs en cette occasion fait ses adieux à la communauté d'Éphèse, il n'y a dans l'Église d'Éphèse que des anciens, lesquels ont la garde de tout le troupeau sur lequel, comme le précise Paul, le Saint-Esprit les a établis évêques pour paître l'Église du Seigneur. Dans cette Église qui était importante, nous ne voyons aucune autre charge mentionnée que celle d'anciens et d'évêques. Dans 1 Timothée, là ce sont des constatations que nous faisons. 1 Timothée chapitre 4 et verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. L'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc Timothée a été, je ne dirais pas installé dans sa charge, mais au contraire, le don a été appelé sur lui par prophétie, a été plutôt proclamé pour lui par prophétie, suivi de l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens, qui dis-je, nous l'avons lu tout à l'heure, donc là, les anciens ont la direction de l'Église, ils disposent aussi de la prédication et de l'enseignement. Dans Jacques 5, 14, en ce qui concerne les malades de l'Église, nous savons que l'onction d'huile est pratiquée par les anciens. Les anciens prient pour le malade en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Dans 1 Pierre 5, que nous avons lu aussi tout à l'heure, les anciens ont ensemble et seuls la charge de paître l'Église et de se montrer les modèles du troupeau. Voilà, contentons-nous de ces quelques lectures, voilà les données que nous avons concernant les anciens et les épiscopes. Et puis, ces deux listes-là, de 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4, nommant les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Alors maintenant, la grande question qui se pose, et il faut l'aborder, c'est celle de l'exercice du ministère pastoral. Ce ministère peut-il être exercé dans une communauté que nous pouvons imaginer moyenne, mettons, même assez développée, une communauté, pas une communauté naissante, parce que là, les choses ne sont pas encore mises en place, mais dans une communauté qui a déjà un peu d'âge et qui s'est déjà constituée, formée. Alors, est-ce que le Le ministère de pasteur sera exercé par un seul homme, qui portera d'ailleurs en général la désignation de pasteur, ou bien sera-t-il convié à plusieurs. Il s'agit en somme de savoir si le ministère pastoral est un ministère collégial, exercé par plusieurs hommes dans une communauté, ou s'il peut être un pastorat unique, confié à un homme, un seul homme. Moi, j'ai eu l'occasion d'étudier il y a déjà assez longtemps cette question sur la demande, d'ailleurs, de certaines églises, de certaines réunions d'anciens, et une cassette, d'ailleurs, avait été faite d'une conférence que j'avais faite à Tarbes, je crois, et puis cette cassette a circulé assez longtemps dans les églises. Donc, ma religion est faite, je n'ai pas varié, n'ai pas eu de raison de varier depuis ce temps-là, et pour moi, je suis convaincu que le ministère pastoral est un ministère collégial. Mais j'ai voulu tout de même savoir ce que d'autres en pensaient. Et j'ai revu dans ma bibliothèque certains documents, notamment une étude du professeur Despine qui s'intitule « Les anciens conducteurs de l'Église ». Les anciens, virgule, conducteurs de l'Église. Cette étude a paru en 1944 dans les cahiers théologiques de l'actualité protestante. Et puis, j'ai vu d'autres documents aussi qui ne m'ont pas paru présenter un intérêt suffisant, et je les ai laissés de côté. Et puis, plus récemment, il y a eu une conférence tenue par un professeur à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, le professeur Jacques Blandenier. Cela en 1982. Et j'ai le texte de cette conférence. Alors, j'ai comparé le travail que j'avais fait moi-même, autrefois, avec ces deux documents. Évidemment, l'étude du professeur Despine remonte à 1944, mais enfin, ce n'est pas depuis ce moment-là que les choses ont changé dans ce domaine-là. Et je me suis trouvé tout à fait en plein accord avec ces notes, tout à fait parallèles à celles que j'avais moi-même mises sur papier précédemment. Enfin, je vais surtout me rapporter à la sienne. L'argumentation donc de Jacques Blandenier est la suivante. Je l'adopte parfaitement, ce n'est pas parce que il m'a convaincu, mais je vous dis c'est parce que j'ai vu que nous étions rejoints sur les pensées à retirer de l'étude du Nouveau Testament dans cette question. Les termes pasteur ou berger, presbyte et évêque sont au pluriel. Première constatation, ils sont au pluriel, sauf dans les épîtres pastorales où le singulier n'intervient que pour dépeindre les qualités morales ou sociales de chaque épiscope. Mais alors là, c'est au singulier, et ça correspond à ceci, si vous voulez, c'est la personne indéfinie, n'est-ce pas ? Tout épiscope, par exemple, tout évêque, c'est bien au singulier, mais il ne s'agit pas d'un évêque en particulier, vu en particulier dans sa fonction dans l'Église. Tout évêque doit représenter les garanties qui sont dites dans le texte. Mais les termes pasteur, berger, presbyte et évêque sont au pluriel. Deuxièmement,
L'Église est présentée comme un corps. Nous avons déjà eu l'occasion de nous arrêter à ce fait qui est proclamé dans les Écritures et qui est d'une importance capitale. L'Église est présentée comme un corps aux fonctions différenciées. Il y a comparaison avec un organisme humain, précisément à cet égard, un corps a des fonctions différenciées, dont aucune ne doit se situer au-dessus des autres. C'est précisément la démonstration que l'apôtre Paul nous fait dans 1 Corinthiens 12. Il ne veut pas que des organes, dit-il, organes ou membres, aient une supériorité, disposent d'une supériorité sur les autres. Les plus nobles, dit-il, par exemple, l'œil pourrait être considéré comme l'organe de la vue, n'est-ce pas, comme vraiment un membre, disons, supérieur au reste. Eh bien, non, il ne faut pas cela. Donc, l'Église a des fonctions différenciées dont aucune ne doit se situer au-dessus des autres. C'est ce qu'implique ce regard sur l'Église sous cette forme du corps aux membres divers. L'Église, d'autre part, est une réalité corporative. Une réalité corporative, chaque membre étant incomplet et ayant besoin des autres membres. Chaque membre étant incomplet et ayant besoin des autres membres. Pensons d'ailleurs là, à ce propos, au ministère du Seigneur Jésus qui était le ministère plein et entier, total. Le Seigneur Jésus, en plus de son œuvre de rédemption, l'œuvre qui lui était tout à fait propre, bien sûr, lui seul, pouvait accomplir l'œuvre de rédemption, mais en plus, il est venu implanter le ministère. Et ce ministère s'est trouvé réparti entre des hommes. Il n'y a personne, même pas l'apôtre, qui dispose d'un ministère aussi entier, tout à fait entier, comme l'était le ministère du Seigneur Jésus. Par conséquent, le ministère que le Seigneur Jésus est venu implanter sur la terre pour que ce ministère, qui est appelé le sacerdoce universel, s'est trouvé divisé en différentes charges, et ce n'est pas un seul homme qui l'a recueilli. Aucun homme n'a pu recueillir le ministère entier du Seigneur Jésus. Nous sommes membres les uns des autres. Ça, c'est une chose que Paul affirme au moins à deux reprises. Nous sommes membres les uns des autres. C'est-à-dire que nous avons besoin les uns des autres. Un membre a besoin des autres membres. Et cela ne peut se vivre parce qu'il s'agit de vivre. Ça, c'est pas une froide théorie. Ce n'est pas une idée intéressante qui doit rester dans le domaine de l'idée, mais c'est un enseignement qui est destiné à être mis en pratique. Alors, cela ne peut se vivre que dans la soumission mutuelle. Nous sommes membres les uns des autres dans la soumission mutuelle. Et c'est pourquoi l'Écriture dit « soumettez-vous les uns aux autres ». Alors déjà, si cela n'est pas observé, n'est pas compris et par suite de l'humilité de chacun n'est pas mis en pratique, il est évident que bien des choses seront faussées dans la marche de l'Église. Il faut donc la soumission. Mais étant donné l'attrait du pouvoir, il y a toute une étude qui a été faite en Suisse sur le pouvoir par Jean-Marc Berthoux, très intéressante. Mais nous savons que le pouvoir, dans toute sphère où il peut s'exercer, le pouvoir a un attrait. Le pouvoir attire les hommes.
Le pouvoir, c'est un objet de désir. Eh bien, étant donné l'attrait du pouvoir, un berger doit avoir des pères, P-A-I-R-S, pas des pères, P-E, accent grave, R-E-S, P-A-I-R-S. Un berger doit avoir des pères, c'est-à-dire des frères, et qui, comme lui, seront investis de la même autorité que la sienne, investis de la même autorité pour le surveiller et pour veiller sur lui. Pour le surveiller et pour veiller sur lui. Il est impossible de concevoir dans une église, dans une communauté, un homme qui serait comme le commandant d'un navire, maître après Dieu, à bord. Mais, chers amis, je ne veux pas m'engager dans la critique, bien sûr, c'est pas du tout mon intention, mais enfin, on ne peut pas manquer, n'est-ce pas, d'avoir à l'esprit, de garder à l'esprit les expériences fâcheuses qui ont été faites à bien des âges et dans bien des circonstances. Et un pasteur se trouvant seul à diriger, commander, à tout faire dans l'église, est soumis à des risques très réels, et de ces risques, bien sûr, l'ennemi s'efforce, lui, de peser dessus. Il pèse sur ces risques, et le pasteur est amené à succomber. Et ça, il ne le faut pas, évidemment. La solitude dans l'exercice de l'autorité est un danger. Et jamais Dieu n'a pu dire, n'a pu penser, n'a pu nous laisser à penser qu'il confiait une communauté à un homme. Ah si, c'est absolument impossible. Absolument. On sent bien que cette idée-là ne peut pas du tout avoir pris place dans les dispositions que le Seigneur nous a transmises par sa parole. La solitude est un danger dans l'exercice de l'autorité, et cette solitude est contraire à la nature même du corps tout entier. Nous restons dans l'idée, n'est-ce pas, de l'Église qui est un corps organisé avec des organes, des membres, et tous les membres ont besoin les uns des autres, eh bien, il ne peut pas y avoir là de solitude. Ce n'est pas possible, c'est contraire à la nature même du corps. L'Église nous est représentée comme un corps, et cela nous fait obligation à notre pensée et à notre soumission à l'Écriture. L'idée de corps nous oblige à nous soumettre à la nature même que possède un corps. Troisièmement, Monsieur Jacques Blandonnier s'est plu à énumérer une bonne partie des tâches qui entrent dans la direction d'une église. Alors, je reprends son énumération. Enseigner, exhorter, corriger, maintenir l'ordre et la paix, animer, stimuler, organiser, réconcilier, discipliner, avoir un contact individuel avec les jeunes, mais aussi avec les vieillards, s'occuper de jeunes convertis, et aussi de vieux convertis, ils ont leurs problèmes aussi, soigner les blessés de la vie, consoler, former des successeurs, représenter l'Église devant les autorités, maintenir un lien avec les autres Églises, etc. Vous voyez, n'est-ce pas, toutes ces obligations, n'est-ce pas, l'ensemble que ça constitue. Et alors, il ajoute ceci, pour qu'un homme puisse tout faire, il n'y a pas qu'un problème de temps. Cela ne pose pas seulement un problème de temps. Déjà, il est aigu ce problème. Ça, j'en sais quelque chose. Hein. Il est aigu ce problème. Mais cela ne pose pas que ce seul problème de temps, mais cela pose un problème d'aptitude, ou plutôt un problème de don spirituel. Un problème de don spirituel. Parce que là, il faut des dons spirituels variés, et ce n'est pas ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 12, notamment. Les dons spirituels sont distribués comme l'Esprit lui-même le veut. Donc, un problème de don spirituel. Chaque individu à ses points forts, auxquels correspondent immanquablement des points faibles. Qui dira qu'un homme est absolument complet? Ah, d'ailleurs, Paul nous dit bien, qu'as-tu et ce que tu as, tu l'as reçu. Alors pourquoi? Pourquoi voudrais-tu t'enorgueillir de ce que tu as, tu l'as reçu? Par conséquent, nous disons, n'est-ce pas, qu'il y a des dons spirituels, mais dans l'homme lui-même, il y a des points forts et des points faibles. Et il ne faut pas que les points faibles d'un seul homme deviennent les points faibles de la vie de toute une communauté. Je me rappelle à Genève, il y a quelques années, c'est dans un colloque très fraternel, c'est ce que certains avaient dit, ils avaient dit ceci, je me rappelle, on constate pratiquement que dans une communauté qui est dirigée, instruite, et dont le ministère pastoral est confié à un seul homme, eh bien, l'assemblée, cette communauté, contracte les qualités ou éventuellement les défauts de l'homme qui la dirige tout seul. Et malheureusement, cela a vraiment été constaté. Vraiment été constaté. Puis-je vous dire que, sans désigner de lieu ni de personne, qu'il y a maintenant des assemblées qui sont désorientées, c'est-à-dire qui sont allées même jusqu'à verser dans une hérésie tout à fait caractérisée. Pourquoi ? Parce que l'homme seul qui dirige chacune de ces assemblées, n'est-ce pas, sur chacune, il y avait un homme seul, l'homme seul dirigeant l'assemblée, a instruit la communauté dans le sens de cette hérésie, et il a entraîné la majorité du troupeau. Je connais ces drames. Ils sont actuels. Pas besoin d'aller chercher dans le passé, ils sont actuels. Actuels. Alors ça non. Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui, évidemment, est infiniment regrettable, c'est une chose tragique de voir l'Église du Seigneur, qu'il a fallu tant de travail, tant de peine, tant de prières pour la constituer. Et puis, alors, parce qu'un homme lui-même s'est laissé égarer, s'est laissé conquérir, par un certain vent de doctrine, eh bien, il entraîne le troupeau de ce côté-là, et il n'y a personne pour faire contrepoids. Et quand on a voulu faire contrepoids, c'était trop tard. On a fait contrepoids de l'extérieur, d'ailleurs, et non dans la communauté même. Alors là, c'est quelque chose de tragique. Quatrième point, j'en reviens toujours à l'argumentation principale de Jacques Blandetier. L'Écriture indique bien que certaines tâches sont différenciées. 1 Corinthiens 12, 29, nous l'avons lu tout à l'heure, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles? Bien sûr, non. Non. Par conséquent, c'est bien l'affirmation que les fonctions sont différenciées. Diriger un troupeau, diriger ou le conduire, si l'on veut, conduire un troupeau, cela correspond davantage aux deux verbes que le Seigneur a employés, bosco, est traduit par paître, et poimono, paître aussi, n'est-ce pas? Diriger ou conduire le troupeau, c'est en priorité le conduire vers des pâturages, le nourrir du pain vivant de la parole de Dieu. Or, toute alimentation déséquilibrée provoque la faiblesse et la maladie d'un corps humain, par exemple, mais il en fera de même du corps l'Église. Il est donc important de discerner les dons d'enseignement et d'exhortation et de donner à ceux qui les ont reçus le moyen de les exercer et de les développer même. Tout cela est raisonnable. Et tout cela, c'est le modèle que nous montre l'Écriture. Alors, nous allons conclure sur cette question de la collégialité, c'est-à-dire sur la question de savoir si le ministère pastoral est bien un ministère collégial, qui doit être exercé à plusieurs dans une communauté, sauf, je dis bien entendu, si cette communauté est naissante. Elle est en train de naître, en train de se former, évidemment elle n'est pas encore structurée. Alors, nous allons conclure. Les pasteurs et les anciens ont-ils le même ministère? Voilà une question qui s'est souvent présentée, très souvent présentée. J'ai entendu là-dessus des débats dans les rencontres, dans les conventions. Est-ce que les pasteurs, ceux qu'on appelle les pasteurs, bien que le terme ne figure qu'une fois, les pasteurs et les anciens ont-ils le même ministère? Alors, je vais vous donner là, à peu près in extenso, la réponse de Jacques Blandonnier. Il répond ceci. C'est bibliquement le même ministère. C'est bibliquement le même ministère, mais il est exercé collégialement dans la diversité et la complémentarité. L'idée de complémentarité dans la Bible est une idée très forte et très présente dans beaucoup d'enseignements. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des études sur différents sujets où est apparu précisément ce principe de la complémentarité. Donc, Jacques Blandonnier nous dit que c'est le même ministère, mais il est exercé collégialement dans la diversité et la complémentarité. Tous ne sont pas docteurs, mais que les docteurs ne soient pas seuls à gouverner l'Église. Il est évident qu'il y aura dans l'Église des personnes qui disposeront d'une formation, une formation générale, une culture élevée peut-être, enfin à divers niveaux, mais enfin certains pourront disposer d'une culture élevée et avoir par conséquent des aptitudes humaines déjà intéressante pour l'exercice d'un ministère pastoral ou d'un ministère de docteur, c'est vrai, mais nous aurons alors l'occasion de revoir à un autre moment la question des charismes, et là je vous montrerai que ce qui compte dans le travail d'un homme qui a charge de ministère, c'est son charisme qui compte. Et ça, on l'a oublié, avec naturellement pour conséquence des dommages. Alors, Bien sûr, tout de suite, il y a des gens qui posent la question, mais alors faut-il manquer de formation, manquer d'instruction, manquer de culture pour être pasteur, s'établir et se fier uniquement au charisme que l'on va recevoir? Bien sûr que non, il n'est pas dit de manquer de culture. Ça dépend aussi quelle culture on va aller rechercher. Mais enfin, on peut disposer de culture. On peut disposer aussi de certaines facultés naturelles, certains dons naturels, ben oui. Mais ces facultés, ces dons, où cette préparation, cette culture dont on disposera, on les apportera, et dans l'humilité la plus entière, il faudra même à ce moment-là peut-être une dose d'humilité plus grande encore, on les déposera au pied de la croix, on les soumettra au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit les mobilisera, c'est lui qui va les utiliser. Mais on ne les utilisera pas directement, indépendamment du Saint-Esprit. Toute la question est là. Alors là, le charisme aura toute autorité. C'est lui qui se manifestera dans l'homme qui le possède, qui l'a reçu. C'est lui, le charisme se manifestera et utilisera telle ou telle possibilité puisée dans la formation, la culture de celui qui exerce le ministère. Mais enfin, c'est le charisme qui est mis en évidence. Vous savez ce qu'a dit l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens. Je suis venu vers vous avec crainte et tremblement, et je n'ai pas voulu venir avec la sagesse du langage. Je ne suis pas venu comme un homme éloquent, comme un orateur. Non, je suis venu vous apporter une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée sur la puissance de Dieu. Voilà ce que dit Paul. Ça, c'est clair, ça. Et Paul aussi dans les Philippiens nous montre qu'il disposait de toutes sortes d'avantages et même d'une formation. Il avait été instruit au pied de Gamaliel, que l'on dit être avoir été un théologien éminent de cette époque. Bon, et effectivement, nous voyons que Paul a disposé de beaucoup de connaissances, mais il nous dira « Je regarde tout cela comme de la boue, à cause de l'excellence de Christ. Même les choses du passé et les choses du présent, il regarde cela comme de la boue. » Dans le texte, c'est même des balayures, des ordures qu'on pousse dehors, qu'on ne veut même pas regarder. On ne porte pas le regard dessus, on les porte dehors. Vous allez me dire, mais ça c'est peut-être poussé à l'extrême. Non, c'est un principe que l'apôtre Paul a entendu dont il a entendu nous laisser témoignage, et un principe qu'il faut maintenir. Et je vous dis, c'est au Saint-Esprit qui donne le charisme, c'est à lui d'utiliser les moyens du bord, si je puis dire, c'est-à-dire la culture, la formation dont l'intéressé dispose. Alors, Jacques Blandetier nous dit autre chose. Il nous dit ceci. Il est certainement difficile de faire cohabiter de façon équilibrée un ministère à plein temps et des ministères menés de front avec une activité professionnelle absorbante, sans qu'il s'en suive des inconvénients, sans qu'il s'en suive que la disponibilité, la formation, la compétence incite le premier, c'est-à-dire celui qui est à plein temps, incite le premier à drainer toutes les activités, tant soit peu importantes, sur sa personne. Évidemment, c'est un problème qui s'est posé, qui se pose toujours. Alors, s'il y a un pasteur rémunéré, on n'a rien à dire contre la rémunération, elle est même biblique, tout à fait biblique. Mais, malheureusement, elle est génératrice de certaines difficultés qu'il faut avoir le courage d'envisager, de dénoncer. Alors, voici, n'est-ce pas, un homme qui est à plein temps, il est soutenu par la communauté, c'est bien, dit, c'est tout à fait biblique, mais il va avoir tendance, évidemment, à prendre ça, et il a des avantages sur les anciens qui, eux, sont encore dans l'obligation d'exercer une profession. Et par conséquent, ils sont pris, non pas la liberté, toute la liberté qui peut-être qui leur serait nécessaire. Bon. Alors, il va y avoir peut-être, n'est-ce pas, un drainage opéré, ce qui va s'opérer presque fatalement en faveur de celui qui est à plein temps. Il va drainer sur sa personne les activités. Alors, Blandonnier continue. La conscience de l'un qui se sent payé pour faire le travail, la surcharge professionnelle ou l'inertie des autres, c'est-à-dire des anciens qui ont des professions, aussi bien que l'image religieuse traditionnelle de l'ecclésiastique, ça aussi c'est un facteur qui intervient, n'est-ce pas ? Vous savez, la tradition a toujours eu beaucoup de force. Alors l'image religieuse traditionnelle de l'ecclésiastique, tout cela pousse à mettre une barrière entre le pasteur et les anciens. C'est une raison supplémentaire, c'est pas moi qui parle cette fois-ci encore, c'est Jacques Blandonnier. C'est une raison supplémentaire pour lutter contre ce que nous devons bien appeler une déformation par rapport au modèle néo-testamentaire collégial. La pente naturelle va dans le sens du cléricalisme, il faut donc redoubler de vigilance.